vais essayer.
D'accord. Oui, parce que je m'en souviens plus.
Parmi toutes les histoires d'extraterrestres, il y en a une dont j'ai eu des échos quand même assez directs. C'est l'histoire des Oumites. Oumites de la planète Oumo, U2MO. Et je me rappelle avoir eu connaissance de leur existence d'abord par un ouvrage en espagnol, mais qui racontait comment ils étaient atterris en Provence, dans un lieu très précis. Et c'était écrit un peu comme une sorte de petit polar, qui avait notamment un détail particulièrement étonnant. Ils étaient arrivés sur un endroit où il y avait des traces de passage d'humains, et là à côté il y avait une grotte dans laquelle ils se sont installés. Mais parmi les restes humains, ils cherchaient justement des inscriptions, et là il y avait des papiers journaux chiffonnés avec un tas d'inscriptions, mais également une matière un peu étrange qu'ils ne connaissaient pas, de couleur marron foncé. Ce n'est que plus tard qu'ils ont compris que c'était du papier journal avec des gens qui s'étaient torchés le derrière, tout simplement. Et alors, ils donnaient une description très précise de ce qu'ils voyaient depuis l'entrée de leur grotte. Telle montagne, telle chose, telle échancrure dans le paysage qui leur permettait d'avoir tel aperçu, etc. C'était assez précis. Et puis, au bout de quelques temps, ils ont quitté la France et sont allés s'installer en Espagne. Et c'est là surtout qu'ils ont eu de très très nombreux contacts pendant une longue période. Et alors là, en France, ils restaient en communication avec Jean-Pierre Petit.
Oui.
Voilà, que j'ai rencontré. Je suis même allé chez lui. Il m'a beaucoup parlé des Oumites. Mais il y avait des textes qui lui avaient échappé parce qu'il y a des contradictions. Pour Jean-Pierre Petit, les Oumites n'étaient pas croyants. Et au contraire, dans certaines de leurs correspondances que j'ai vues dans des livres espagnols, ils racontaient comment ils avaient été très étonnés de voir sur terre l'aventure de Jésus-Christ, parce que le Fils de Dieu s'était incarné aussi chez eux et ils l'avaient accueilli avec le même enthousiasme. Et alors, il y a eu donc tout un développement d'échanges très intenses en Espagne. Et je me rappelle qu'un jour, je me trouvais dans Madrid, en voiture, assis à côté du père José María Pilón, qui m'a invité plusieurs fois à faire des conférences dans sa jésuitière. Et il me racontait que les Oumites, après plusieurs années de contact, avaient décidé de quitter la Terre. Et il y avait eu une grande réunion, je crois à Barcelone, si je me rappelle bien, où on savait qu'ils allaient faire connaître leur dernière communication, et notamment faire leurs adieux à la Terre. On savait qu'ils seraient probablement dans la salle, puisqu'on ne les distingue pas, ils ont l'air de grands Scandinaves.
Oui, pareil, oui.
Voilà. Et là, à la fin de la communication qui a été lue, que quelqu'un avait reçue, Il y a la liste des gens qu'il remercie pour s'être intéressé à leur cas et d'abord pour y avoir cru. Et il donne la liste des noms. Et le père Pilone me dit, et à la fin de la liste, il y avait, je ne sais pas moi, un nom un peu bizarre et que personne ne connaissait. Tout le monde se regarde. Ça ne faisait pas partie des fanatiques, des intéressés, des oumites. Mais à ce moment-là, il y avait à côté de lui une dame qu'il connaît depuis son enfance, qui est de Barcelone, et qui pâlit, et qui lui dit « Mais c'est moi !» Un beau jour chez moi, en pensée, je leur ai dit, si jamais vous voulez me contacter, faites-le sous ce nom-là, que personne ne connaît, c'est un petit surnom d'enfance, qu'elle n'avait même jamais dit à son mari ni à personne. Donc là, il y a quand même un indice oui. déjà un peu sérieux
oui.
d'un contact réel.
D'accord.
Il y a quelque chose dans cette histoire. J'ai eu un deuxième indice également de la réalité de ces communications et de ces contacts quand je me suis trouvé, en Nouvelle-Calédonie, invité par un garçon qui avait eu cette expérience aux États-Unis. Mais c'est en Nouvelle-Calédonie, il m'avait invité à faire des conférences, y compris à Tahiti. Et c'est aux États-Unis qu'il avait fait cette expérience. Là aussi, il s'était adressé à eux en pensée, en leur disant « Si vous voulez venir me voir, il n'y a pas de problème, venez quand vous voulez. » Et là, il avait reçu mentalement la réponse « Mais est-ce que tu n'auras pas peur ?» Il avait répondu « Ben non, je vois pas pourquoi. » Et quelque temps plus tard, voilà que, sans trop savoir pourquoi, il quitte la ville dans laquelle il était et il se trouve en plein désert et peu à peu arrive par derrière, à son côté, une autre voiture brillamment éclairé intérieurement avec de grands garçons de type scandinave. Et alors là, un petit peu contrairement à ce qu'il leur avait promis, au bout de quelque temps, il prend un peu peur, il accélère, les autres accélèrent aussi, et puis au bout de deux ou trois fois, les autres comprennent et prennent une autre direction. Voilà encore un indice
d'accord.
qui a quand même un certain intérêt. Alors, par ailleurs, effectivement, j'ai connu une autre dame, Lou Kadankilde, qui est une Finlandaise, d'où je crois Lou Kanan, et Kilde qui vient de son mari qui est suédois. Et son mari représente la Suède dans différentes organisations internationales. La première fois, où je l'ai rencontré, c'est d'ailleurs encore toute une histoire, ça. Voyons, même si ça interrompt un peu le récit, tu recoudras ça comme tu pourras. Alors que j'étais à Paris pendant l'été, gardant le trésor des icônes,
si, je me souviens.
J'avais reçu un ouvrage en espagnol traduit du finlandais. Je ne connaissais pas du tout l'éditeur espagnol et je ne connaissais pas la rédactrice de cet ouvrage. C'était une dame, Lou Kadankilde. Et alors, Cette Finlandaise racontait dans ce livre que c'était une maîtresse-femme d'abord, pas du tout le genre, selon les caricatures, à monter sur une chaise quand il y a une souris, n'est-ce pas? Elle a été responsable des hôpitaux de la Laponie pendant une dizaine d'années. On confie quand même pas ça à n'importe qui. Elle avait profité de ses vacances pour faire de la médecine tropicale et aider des boat people. Et voilà que un jour, elle est en train d'écrire un texte, bon, puis voilà que, de façon étonnante, sa main est prise par une autre force, et voilà qu'un autre texte arrive qui n'est plus la suite de ce qu'elle avait commencé à écrire. Et peu à peu, elle comprend que c'est une tante qui est décédée depuis un certain temps et qui s'empare d'elle. Ça ne la gêne pas trop, elle accepte très bien, pas de problème. Et puis un jour, elle est invitée à faire une conférence dans les environs d'Helsinki, et voilà que là aussi sa main est prise et que sa tante lui interdit d'y aller. Alors là, elle est furieuse, en disant quand même, je suis grande, bon, je sais ce que je fais, il n'y a pas de problème, j'irai. Et alors, elle part pour y aller, et elle m'a raconté, je ne sais pas pourquoi, alors c'était un endroit où j'étais allé bien des fois, j'ai pris la direction exactement opposée. Et puis à un moment, je me suis trouvé sur une route avec un camion qui arrivait devant moi que je n'ai pas pu éviter. Ça a été l'accident. Je me suis trouvé éjecté en dehors de ma voiture et j'ai vu des petits hommes gris et qui s'occupaient de moi et notamment qui me soignaient du côté du foie. Comme elle est médecin, elle sait où est le foie. Bon, moi pas tellement, mais... Et à ce moment-là, arrive une ambulance pour l'emmener et elle dit aux ambulanciers, mais il faut les emmener eux aussi. Les ambulanciers lui disent, mais qui ça, mais vous êtes seule, il n'y a personne. Bon, elle était la seule à les voir. Donc il l'emmène, il la soigne à l'hôpital et puis au bout de quelque temps, les médecins et chirurgiens viennent la voir un peu penaud et lui disent, comme vous êtes de la partie, on s'est dit que tôt ou tard vous vous en apercevriez, mais quand on vous a soigné pour un tas de fractures, on ne vous avait pas imaginé, examiné du côté du foie. Et quand on y est allé voir, on s'est rendu compte que l'opération était faite et que la cicatrice était là. C'est quand même pas mal non plus, ce petit détail. Donc, là, j'ai eu cette expérience étonnante, et puis plus tard, l'Okanon Kilde participe aux États-Unis à un séminaire d'hypnose. Ils sont 5 ou 6, bon, sous la direction d'un hypnotiseur qui ne leur a donné qu'une consigne très vague, remonter à un événement qui a été important dans votre vie. Et voilà qu'elle va se mettre à raconter un épisode effectivement important. L'hypnotiseur lui dit, écoute, l'a fait sortir d'hypnose en lui disant, écoutez, c'est quelque chose auquel je ne suis pas habitué, je ne peux pas vous guider là-dedans. Essayez de recommencer une hypnose avec quelqu'un de votre connaissance en qui vous avez toute confiance et qui pourra mieux vous guider. Ce qu'elle fait, rentrer en Finlande. Et voilà que l'hypnotiseur lui donne également une consigne. Un événement important dans votre vie, elle est allongée sur un sofa comme la plupart du temps. Bon. Et là, elle lui dit, écoutez, quand j'étais aux États-Unis, quelqu'un m'a demandé si j'avais eu des contacts avec les extraterrestres. Je leur ai répondu oh non. Mais ils peuvent venir quand ils veulent, il n'y a pas de problème. Et puis après ça, il n'y a plus repensé. Et voilà qu'un jour, à Helsinki, elle est sur la terrasse de sa petite maison de campagne, à côté d'une actrice très connue, et elle ouvre un livre qu'elle vient d'acheter. Et le livre s'intitule « Premier contact ». Elle lève les yeux et elle voit un engin qui se pose sur le domaine à côté du sien. Et là, elle est prise d'une panique terrible, comme elle me disait, bon, j'ai aidé des boat people, j'ai eu un tas de mitraillettes dirigées vers moi, ça ne m'a jamais fiché. Une pétoche pareille. Et alors, je suis précipité avec mon ami dans l'escalier pour rentrer dans la maison et je lui disais, c'est un effet de clair de lune. Elle me disait, en même temps, je me rendais compte que c'était complètement idiot parce qu'on était en plein jour et que je vois pas comment un clair de lune pourrait provoquer une vision pareille. Et donc là, il y a un épisode très fort. Et puis, quelque temps après, elle va reprendre un phénomène d'hypnose comme ça aux États-Unis. Et là, elle va découvrir qu'elle est enveloppée dans un costume comme des cosmonautes, un collant brillant, argenté. Et elle voit effectivement, il y a une soucoupe volante qui est à côté dans les champs et deux personnages. Et elle comprend qu'elle fait partie de leur communauté, qu'elle est également
d'accord.
Voilà, une oumite. Et elle va avoir plusieurs contacts après avec eux, toute une série. Alors je lisais ça dans ce livre traduit du finlandais en espagnol et par ailleurs j'avais entrepris une autre lecture, c'était pendant l'été mais je savais que à la rentrée en septembre ou octobre j'étais invité à un congrès aux États-Unis pour des expériences de mort imminente. Et là, j'avais un autre récit d'une femme habitant au sud des États-Unis, que j'ai rencontrée d'ailleurs, au moins à deux ou trois reprises. Ce nom ne me revient plus immédiatement, mais ça reviendra probablement.
La prochaine fois.
Voilà. Et
je saurais te le rappeler.
Voilà. Il rate pas une occasion. Hein.
Non, non, aucune.
Et voilà que... Oui, cette femme, donc... avait fait une expérience de mort provisoire et à la suite de ça, dans sa famille, d'abord elle occupait ses jours en allant dans les hôpitaux rencontrer les gens près de mourir, bon. Et quand elle rentrait chez elle, elle ne parlait plus à son mari, à ses enfants, que d'un tas d'histoires de mourantes, pas. Or, elle était bien vivante. Au bout d'un certain temps, ils ont fini par en avoir un peu marre. Et ils lui ont dit, oh, écoute, faudrait que tu arrêtes avec tout ça. Bon. Et alors, comme elle n'arrivait pas à arrêter, ils ont fini par décider, en toute harmonie, en toute paix, en tout amour, de se séparer. Et voilà qu'elle est invitée à ce moment-là à participer à une rencontre, un congrès, je ne me rappelle plus quoi, mais dans le nord des États-Unis, où je suis allé, comment ça s'appelle, avec Bruce Grayson. Et elle y va en traversant les États-Unis en voiture, et un peu au-dessus de chez elle, déjà un peu plus vers le nord, elle fait un arrêt chez une de ses filles. Et elle couche dans le même lit, bien entendu, côte à côte. Et voilà que dans la nuit, elle est à moitié réveillée et qu'elle voit une femme taillée comme une armoire à glace.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir,
bonsoir.
Petite nièce qui a appelé.
Qui ça?
Votre petite nièce qui a appelé pour prendre de vos nouvelles.
Ma petite nièce.
Et je me suis permise de dire que vous dormiez parce que vous aviez eu pas mal de visites et je sais que vous avez mal dormi cette nuit.
Voilà.
Donc j'ai dit que vous dormiez et elle demande de la rappeler dès que vous avez un moment.
Je la rappellerai.
Voilà.
Merci beaucoup.
C'est ce qu'ils disent quand on appelle, que tu dors.
Non, alors, sérieux. Soit on le dit.
Ouais,
soit
ouais,
quand on le dit, c'est vrai.
Vous avez raison.
Et
oui,
je
oui.
sais que cette nuit, il n'a pas dormi la nuit quand ouais, vous êtes là, donc ça fait un peu bon.
Vous avez raison.
Merci.
Vous avez raison.
Une femme taillée comme une armoire à glace, vêtue de blanc et de noir. Et cette femme lui dit, ah oui, occupe-toi de ta fille. Effectivement, elle l'avait trouvée avec mauvaise mine. Elle avait un peu insisté pour qu'elle voie un médecin et sa fille l'avait envoyée sur les roses. « Occupe-toi de ta fille. » Alors elle répond, « Mais j'ai pas de petite fille, je suis pas en âge d'en avoir. »« Mais ta fille, celle qui est à côté de toi. » Et effectivement, le lendemain, elle va insister et finir par obtenir que sa fille aille voir un médecin. Et je n'ai pas de détails sur la suite, mais il était grand temps que quelqu'un intervienne, effectivement. Et je lis tout ça dans ce livre et je me dis, mais cette femme était habillée comme Lou Cannon Kilde, comme la Finlandaise. Et je savais que toutes les deux étaient invitées à ce même congrès et que j'allais les y retrouver. Ça allait donc être intéressant, voir si elles se reconnaissaient. Et alors, quand j'y suis allé, effectivement, à un moment, je les ai vues toutes les deux ensemble, et je leur ai demandé si elles s'étaient déjà vues avant le congrès. Et l'une des deux, je ne me rappelle plus laquelle, m'a dit, non, mais... Quand j'ai vu l'autre, je me suis rendu compte que je l'avais déjà rencontré. Mais je ne savais plus où ni quand. C'est quand même déjà intéressant. Et alors après ça, Lou Cannon Kilde, pendant ce congrès, c'était à Washington celui-là. Washington, D.C., il faut oui. préciser toujours.
Ah oui, toujours.
Voilà.
On ne sait jamais ce que ça veut dire,
District fédéral.
Ah, district fédéral, d'accord.
Voilà, oui, d'accord. Oui. Oui, parce que c'est pas du tout dans l'état de Washington
oui.
qui est au nord-ouest, au contraire.
D'accord.
Et alors...
C'était en quelle année, à peu près?
Tu dis ?
C'était à quelle année à peu près ?
C'est ?
En quelle année ?
En quelle année ? Aucune idée.
Aucune idée.
On trouverait ça probablement à côté de mon bureau, dans mon ancien chez moi, une petite feuille dans laquelle j'ai marqué pas mal de dates.
J'ai la voiture en bas. On peut y aller si tu veux et on peut se faire le resto d'à côté.
Voilà, hein? Voilà. Non, je préférerais un autre restaurant un peu mieux quand même.
Un peu mieux? Bon.
Oui.
Bon.
Je voudrais des langoustines, voilà.
Ah oui? Chiche.
Non. Non, je ne suis plus en état. Mais... Et alors, donc c'était à Washington, et Lou Canonkilde va avoir d'autres contacts avec les Zoumites pendant des années.
D'accord.
Oui. Voilà à peu près, je crois, tout ce qui me revient.
C'est bien.
De mes souvenirs sur la question.
C'est intéressant. Oui.
Ça te permet déjà de faire un article.
Oui, bon. Oui, tout à fait. Oui.
C'est très bien.
Tout à fait.
Mais écoute, de l'inédit, bon, il n'y a pas...
Mais voilà, c'est complètement inédit par rapport à tout ce qui se dit.
Eh bien, je suis content d'avoir pu encore te faire ce petit plaisir.
Bon, écoute, c'est pas le dernier, mais...
Ouais. Que tu as bien mérité. Parce que tu es vraiment quand même le seul éditeur en France qui pouvait accepter de publier tous mes livres. Tu es le seul, hein? Et notamment les livres religieux. Aucun éditeur, d'abord, il y a ceux que la religion n'intéresse pas du tout, qui m'ont renvoyé promener, et ceux qui s'intéressent aux questions religieuses n'auraient jamais accepté une critique aussi violente et dans des termes aussi clairs, aussi mûrs, aussi crus même contre la théologie de l'Église catholique. Aucun n'aurait accepté. Aucun.
Faut un inconscient pour ça.
Non, là, je te dois énormément. Et en plus de ça, quelques beaux ouvrages remarquables.
Et attends, alors tu vas avoir le tome 3 et quand on va faire...
Oui.
Le recueil des trois.
Le plus grand.
Ah, oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ce que tu m'as dit.
Bah oui, tu verras ça, tu nous diras ce que tu en penses.
Voilà. Hein? Et que parce tu que... vas rééditer également.
Oui.
Pour que l'homme devienne Dieu en,
oui,
un, seul
en un seul volume. C'est prêt.
Ça, c'est très bien.
C'est
très bien, d'autant que tu sais que mes ouvrages commencent à percer de plus en plus, de
bah,
tous
oui.
les côtés. Et notamment à être admis par les orthodoxes très officiellement. Mmh. Puisqu'à la cathédrale, ce sont eux qui t'ont contacté à la cathédrale.
Non, pas encore. Non. Non, tu m'en as parlé, mais ils m'ont pas contacté.
Ils ont dû le faire par ailleurs.
Oui. Alors peut-être directement chez le distributeur.
Peut-être directement chez l'éditeur,
ouais.
Voilà.
Oui. Et il y a un livre qui manque, qu'il faudrait que tu fasses, c'est un livre sur les extraterrestres. Tu n'en as jamais fait. Et je pense que tu as de la matière pour le faire.
Voilà.
Oui.
Ben, la matière, je te l'ai confiée.
Oui, oh, tout bout. Toi.
Je n'en connais pas plus.
10 pages sur 400, c'est rien. Toi.
Je connais Jean-Pierre Petit aussi,
oui.
qui est en contact avec eux.
Oui.
Je suis même allé chez lui.
Bon. Oui.
Mais c'est un gars bizarre.
Oui, attends, on va couper pour Petit. Jean-Pierre Petit.